Et de retour sur le plateau de S'entraider, toujours en direct de l'hôtel de ville de Tours, où nous aura rejoint un nouvel invité. Il me semble qu'on va aller du côté de Bourges et qu'on va aller aussi surtout en Asie. Je te laisse la parole, Axel.
Oui, alors je prends le relais après Maxime. Donc là, on accueille l'Association de solidarité internationale et d'éducation favorisée, qui fait des échanges entre les jeunes français du continent asiatique, donc principalement la Chine, l'Inde et l'Ouzbékistan. Et Alain est venu nous parler de ces échanges, du projet qu'il mène. Et j'aurais voulu savoir, dans un premier temps, en quoi ça consistait, comment ces échanges se font, à quel niveau.
Voilà, donc notre association qui a 10 ans, S'entraider à 20 ans et nous 10 ans, est une association donc régionale. Nous sommes basés à Bourges, effectivement. Et nous menons des projets en Asie avec des jeunes majeurs. On l'a fait avec des mineurs jusqu'en 2015 et après on est passé uniquement avec des majeurs pour des questions de sécurité. Et nous formons ces jeunes d'abord en région centre par des week-ends de préparation. Et ensuite on va faire des missions ciblées avec des projets qui sont toujours différents en fonction du type de jeunes et au type de projet que nous proposent les partenaires que nous avons en Asie. Et ils partent 15 jours, 3 semaines, ça peut aller jusqu'à 6 semaines, faire ou des chantiers, ou travailler au niveau de l'agriculture, ou au niveau de l'éducation, puisqu'on travaille beaucoup dans un orphelinat dont on s'occupe énormément. Et ils font aussi des missions sanitaires autour de la kinésie en particulier.
D'accord. Et pourquoi s'être concentré sur les pays asiatiques, donc l'Inde, la Chine et l'Ouzbékistan? Alors, d'où venait cette volonté?
Cette association, j'en suis le fondateur et après quelques autres personnes m'ont rejoint pour qu'on puisse fonder cette association. Mais en fait, depuis 1981, j'avais des liens avec la Mauritanie et étant chef d'établissement scolaire, j'ai pendant de nombreuses années permis à des jeunes de pouvoir partir en Mauritanie faire des chantiers. Or, en 2009, on s'est rendu compte que ça devenait trop compliqué pour des questions liées au terrorisme. Et ayant des contacts en Inde et des jeunes qui étaient toujours très motivés pour faire de l'action internationale, on est parti en Inde. Et ça a été le coup de foudre là-bas. On a rencontré des partenaires qui tout de suite nous sont apparus comme étant des gens sérieux. Et du reste, on travaille toujours avec eux. Et puis ensuite, au bout de 3 ans, on a fait un projet en Chine et puis maintenant en Ouzbékistan. Voilà, donc au fur et à mesure, notre association grossit parce qu'on est sollicité par des jeunes ou même des pays qui nous sollicitent, comme l'Ouzbékistan, qui nous avait sollicité pour voir si on ne pouvait pas travailler avec eux.
Et au niveau de ces associations avec qui vous travaillez, quelles sont-elles, par exemple, en Inde, de notre point de vue, de loin, on a... C'est difficile peut-être d'imaginer que ce genre de choses peuvent être mises en place.
Oui, alors effectivement, l'Inde est un continent. Nous travaillons uniquement sur la pointe de l'Inde, c'est-à-dire le Kerala et le Tamil Nadu. On travaille avec deux fondations, une fondation environnementale et une fondation humanitaire. La fondation humanitaire s'appelle la Dan Foundation. C'est une fondation qui a 1000 employés, qui intervient dans 17 000 villages et qui travaille selon les préceptes de Gandhi. Ce sont des gens qui ont pour mission de conduire les populations à rester à vivre dans les villages plutôt que de partir vers les grandes villes, vers les bidonvilles, parce que dans ces villages, les paysans n'arrivent plus à vivre du produit de leur terre. Et donc la DAN les accompagne pour faire évoluer à la fois leurs pratiques agricoles vers en particulier l'agriculture vivrière, alors qu'ils faisaient du riz, mais le riz n'arrive plus à le vendre parce que les gros producteurs font des prix trop bas pour qu'ils puissent concurrencer, et puis aller plutôt vers le bio, et un gros travail autour de l'émancipation des femmes et la scolarisation des enfants, la santé, etc. Donc nous, on travaille avec cette fondation et on participe à leurs projets. Et on va du reste démarrer une recherche pendant 3 ans avec l'Université d'Orléans et de Tours et le laboratoire de recherche du CEDET autour de l'équité alimentaire avec plusieurs villages soutenus par la Dan Foundation.
D'accord, donc les villages ne sont pas choisis au hasard et il y a une vraie demande directement sur place.
C'est eux qui nous proposent des missions, ce n'est pas nous qui leur proposons.
Quelles sont les missions qu'ils peuvent vous proposer en Inde ou même en Chine, en Ouzbékistan?
Alors, On s'adapte à plein de choses. Par exemple, en Inde, on a fait une mission avec des étudiants de master de géographie d'Orléans. On est allé sur une île qui avait été complètement dévastée par le tsunami. Et c'est pour que les gens puissent rester sur l'île et pouvoir repartir à zéro. La Dan Foundation a été chargée de ce travail. Et nous, 15 ans après, on est allé faire un reportage là-bas pour voir comment cette île s'était relevée du tsunami qui avait fait des milliers et des milliers de morts. Tous les pêcheurs, c'était une île, donc ils vivaient de la pêche, tous les pêcheurs avaient perdu leur bateau, les fonds avaient été abîmés, on ne pouvait plus pêcher. Comment on est passé vers une agriculture côtière, et comment les femmes ont pris un rôle prépondérant pour relever l'île. Et c'est une île qui est aujourd'hui presque un exemple, parce qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes, et en Inde c'est pas quelque chose de fréquent, grâce à ce que la Dan Foundation a fait. Et donc nous on est allé filmer et faire des reportages sur tout ça.
Et vous, du coup, vous parlez de l'égalité. Comment s'est mise ces actions pour, de votre part en tout cas, pour l'égalité des femmes?
Alors,
ça passe par quoi, le travail, l'autonomisation?
Alors, ça passe par le fait que nos étudiants ou nos jeunes là, qui partent avec nous sont des jeunes qui sont formés avant de partir, et on les forme sur des thématiques. Et par exemple, sur comment rencontrer les femmes, comment leur parler d'un certain nombre de sujets qui nous paraissent importants. Par exemple, on parle beaucoup de l'hygiène menstruelle, qui est un tabou énorme en Inde et qui conduit malheureusement à ce que les femmes aient beaucoup de problèmes de santé à cause de ça. Donc, et on parle avec les hommes aussi sur ce sujet pour leur dire mais il faut qu'on construise des sanitaires, parce que si les femmes ont des sanitaires, pendant ces périodes-là, elles vont pouvoir avoir une hygiène plus facile. Donc c'est un travail d'argumentation, on essaye de discuter, pas de convaincre, mais d'influencer le discours.
Sur d'autres actions que vous menez en Ouzbékistan, je crois savoir qu'il y a quelque temps, c'est encore assez récent, vous avez reçu une délégation officielle ouzbek. À Bourges, que vous étiez présent. Peut-être mon regard est-il erroné, mais l'Ouzbékistan est un pays relativement méconnu en France. J'en ai l'image d'un pays avec un État central très fort. Qu'en est-il sur le terrain et comment vous agissez là-bas et cette visite aussi officielle qui a eu lieu après à Bourges?
Oui. Alors, c'est l'Ouzbékistan, jusqu'en 2016, c'était une dictature pro-russe, donc un régime très très fermé. En 2016, il y a eu des élections. L'ancien président est décédé au moment des élections. Il y a eu un accident. Et donc, c'est un pro-européen qui a été élu. Et depuis 2016, ce pays s'ouvre sur l'Occident, s'ouvre sur l'Europe et sur le monde. Et ils ont une ambassade en France et un représentant à l'UNESCO aussi, qui sont très très volontaristes pour pouvoir créer des liens avec l'Ouzbékistan. Donc c'est un pays qui n'est pas du tout à l'image de ce qu'il était voici encore 5-6 ans, parce que la liberté de religion maintenant existe, la liberté aussi politique existe. Alors c'est pas miraculeux, il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer, mais ils ont misé sur la jeunesse, ils construisent des universités absolument partout, puisque 45% de la population a moins de 25 ans, hein. Donc c'est énorme. Et donc, l'ambassadeur d'Ouzbékistan en France et l'ambassadeur représentant l'Ouzbékistan à l'UNESCO sont venus passer 2 jours à Bourges lors de notre festival. Et on a pu travailler avec la ville de Bourges sur des projets que nous allons mener avec eux dans les années à venir. Et du reste, aux vacances de printemps prochain, on a 18 jeunes là, qui vont partir en Ouzbékistan autour de la mer d'Aral, qui est cette mer qui a été vidée par les Russes. Et pour un projet environnemental, du reste inscrit en partenariat avec l'ONU.
D'autant que l'Ouzbékistan, alors peut-être que je me trompe aussi, mais de par sa situation géographique, est au cœur de nouvelles problématiques. On a beaucoup parlé récemment dans l'actualité, tristement, de l'Afghanistan. Il me semble que c'est un pays qui est en plein cœur de la future route de la soie, qui n'est pas très loin de ces problématiques-là non plus.
C'est ça, tout à fait. Donc l'Ouzbékistan, c'est la route de la soie, Boukhara, Samarkand, Tashkent. qui va. Et ils ont une frontière effectivement avec l'Afghanistan, qui est une petite frontière, du reste, hein, c'est pas la partie la plus importante. Donc ils ont des voisins qui ne sont pas faciles à gérer. Mais il y a entre l'Ouzbékistan et l'Afghanistan une relation, on va dire, d'indépendance. Hein. Chacun ne s'occupe pas de la vie de l'autre et ça se passe plutôt pas mal. Ils ont plus de difficultés avec d'autres pays comme le Tadjikistan parce qu'il y a des problèmes liés à l'eau, puisque ces pays ont construit des barrages et c'est eux qui régulent l'eau qui va vers l'Ouzbékistan, donc il y a des problèmes liés à l'eau. Sinon, c'est un pays aussi qui est respecté dans ce secteur-là parce qu'il a une armée qui est de tous ces pays la plus solide et donc elle est respectée par rapport à ça.
Et à l'inverse, concernant la Chine, en vue de la situation actuelle, vous agissez où et quelles sont vos libertés ?
Alors,
est-ce que c'est à Hong Kong, par exemple ?
Alors, non, pas du tout. C'est dans la région du Hunan, qui est la région qui est jumelée avec la région centre. Et nous sommes en partenariat avec l'université de Changsha, qui est la capitale, sur deux sections, la section français et la section art. Et donc, quand on va là-bas, on va avec des étudiants, des jeunes français qui sont ou artistes ou qui ont une sensibilité pour l'art. Et on rencontre là-bas des artistes donc chinois. Pendant une douzaine de jours, on travaille ensemble pour faire des projets communs avec des techniques occidentales et des techniques chinoises. Et ensuite, les jeunes français apportent aussi de leurs œuvres. Les jeunes chinois apportent de leurs œuvres et on fait une grande exposition. Donc l'intérêt, c'est que pendant les 10-12 jours où ils travaillent, c'est que ces jeunes se rencontrent. Alors bien sûr, ils font des choses ensemble, mais ils parlent surtout. Et ça, c'est très très intéressant parce que, évidemment, ça fait circuler des idées. Et vous savez qu'en Chine, les artistes sont très surveillés. Et donc, c'est une chance pour nous de pouvoir travailler dans ces conditions-là, là-bas.
C'est intéressant parce que jusqu'à présent, les associations qu'on a reçues étaient beaucoup dans des choses, dans du faire, des choses très matérielles. Il y en a besoin, pour combien ? Mais ouais, donc avec un pays, oui, comme la Chine, on est dans des choses beaucoup plus abstraites qui relèvent du domaine des arts et c'est pas toujours ce à quoi on pense quand on pense au jumelage ou à l'humanitaire.
Tout à fait. C'est sans doute ce qui fait un peu l'originalité de notre association, c'est que nous, on travaille sur l'humain et on travaille sur la circulation des idées. Et on passe beaucoup par l'art. Toutes nos missions, que ce soit en Inde, en Chine ou en Ouzbékistan, sont toujours avec un volet artistique et on a toujours des artistes qui viennent avec nous. Toujours, toujours. Et des artistes professionnels. Parce que c'est aussi un moyen de communiquer l'art. Par exemple, en Ouzbékistan, on va aller planter des arbres, on va aller travailler dans les champs de coton, mais on va faire aussi des stages de danse et de musique avec les jeunes Ouzbeks. Parce que c'est une langue internationale, la musique. Et ça permet de pouvoir ensuite échanger. Bon, on échange généralement en anglais. Hein, et ça fait circuler les idées. Et ça, on compte beaucoup sur ça.
Et par exemple, en Chine, quelles sont les formes d'art qui sont un peu inédites, auxquelles on n'est pas familier et qui peuvent nous sensibiliser ?
Alors, ils ont des techniques, en particulier sur tout ce qui est calligraphie, aussi la peinture sur la soie. Où ils ont des techniques vraiment superbes sur la peinture miniaturiste aussi, en Ouzbékistan aussi, du reste pour la peinture miniaturiste. Mais aussi, on travaille sur des arts plus modernes, hein, autour de la vidéo, du numérique, et où là, ils sont aussi extrêmement compétents et avec des approches parfois un peu différentes, culturellement différentes. Donc c'est tout intéressant. L'échange est fort, hein, l'échange est fort. Et pour vous dire, vous voyez que on se fait aussi parfois des images, des représentations. C'est aussi pour ça qu'on est dans ces pays. C'est pour casser un peu les représentations. Par exemple, l'exposition qui a été réalisée la dernière fois par nos jeunes avec les jeunes chinois a été présentée avec 5000 invités. 5000 invités. Et la télévision chinoise, la télévision officielle chinoise, a fait un reportage sur cette expérience. Donc, comme quoi, c'est un pays où, effectivement, on parle beaucoup de la surveillance qui existe, hein, c'est compliqué, hein, je ne vais pas vous dire que c'est simple, mais il n'empêche qu'ils ne sont pas si fermés que ça, et pourquoi ils adorent travailler avec nous au niveau des artistes, c'est parce qu'ils nous disent, nous en Chine, à cause de la révolution culturelle, on a tué l'imaginaire, puisqu'on n'avait pas le droit de penser, et donc on a du retard. Or vous, les Occidentaux, et les Français en particulier, vous avez une capacité de création extrêmement forte et donc ça nous intéresse de voir ce qui se passe dans vos têtes, dans vos cerveaux en termes de créativité. Vous nous apportez beaucoup. Et c'est dans cet esprit-là que ça se passe.
Et concernant les échanges entre les Français et les autres pays, donc, vu qu'il y a toujours cette barrière de la langue, j'imagine qu'il n'y a pas le critère de savoir parler la langue, sinon ça sera un peu compliqué de trouver des personnes.
C'est impossible.
Est-ce que c'est à travers ces arts qu'ils arrivent à se comprendre, vu que c'est quand même des langues souvent très différentes, même à l'écriture, etc.
Oui, alors... bien sûr, à travers l'art, on peut exprimer des choses, mais aussi, nous, on s'entoure d'interprètes que l'on paye pour s'assurer qu'il puisse y avoir une traduction entre les langues quand ils ne parlent pas anglais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui parlent anglais à travers le monde, donc souvent, quand c'est en anglais, il n'y a pas de souci. Et quand c'est dans la langue du pays, ça se fait par des interprètes, car nous engageons des interprètes de manière à ce qu'il puisse y avoir une relation la plus fluide possible. Et des interprètes indépendants.
D'accord. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour postuler et faire cette expérience? Quels sont les critères peut-être pour...
C'est justement, là on est en train de recruter, donc s'il y a des jeunes qui nous entendent, qui ont entre 18 et 30 ans, qui souhaitent partir en Ouzbékistan entre le 9 et le 22 avril 2022, eh bien ils prennent contact avec l'association, donc en allant sur le site de Centraider, ils vont aller sur le répertoire, ils vont trouver l'association Asie, et avec nos coordonnées, et ils prennent contact avec nous très rapidement, parce qu'on finit le recrutement là pour le 20 décembre, mais il y a encore des places. Et s'il y a des jeunes qui sont intéressés, ils viennent. Il n'y a pas de critère. Le seul critère, c'est d'être libre deux week-ends avant de partir et un week-end au retour, puisqu'on fait un débriefing.
Émotion.
Voilà. Et les deux week-ends avant, c'est pour la préparation. Et puis ensuite, nous sommes aidés par la région, par certains départements et des partenaires privés. Ce qui fait que, grosso modo, pour que ça ne fasse pas peur aux jeunes, grosso modo, c'est un projet qui coûte réellement autour de 750 euros pour 15 jours en Inde, plus les week-ends, tout compris, les assurances, tout compris, pour à peu près 750 euros. Donc ça permet à n'importe quel jeune de partir. Et si un jeune souhaite partir et qu'il a vraiment des problèmes financiers, on a une bourse qui peut permettre d'aider et de donner un petit coup de pouce supplémentaire à un jeune. Et les jeunes payent en autant de fois qu'ils le veulent. S'ils veulent payer en 3, 6 ou 10 fois, ils payent en 3, 6, 10 fois. Donc on facilite vraiment les choses. Ça serait quand même bizarre qu'on ne soit pas solidaire avec les jeunes français pour faire de la solidarité à l'autre bout du monde.
C'est clair.
Mmh. Évidemment.
Bah, très bien. Merci beaucoup, Alain, d'avoir pu présenter donc l'association. Et nous, on va conclure notre émission,
merci.
Vu qu'on a pu avoir un large panel de tous les invités qui étaient présents à Centraider. Est-ce qu'on a une petite pause musicale ou on va couper là maintenant? Eh bien écoutez, merci à Maxime d'avoir animé l'émission, même si là il a dû partir. Mélissa évidemment.
Edifaf.
Et Seb à la régie et aussi des questions. Voilà. Salut à tous.
Oui, merci beaucoup à Centraider aussi qui nous a permis de faire cette émission aujourd'hui en direct de l'hôtel de ville de Tours. On salue au passage aussi le festival Plume d'Afrique, puisqu'on est toujours très content de faire des émissions en lien avec le festival. Et je crois que l'heure est passée pour aller voir les échassiers, hélas. Voilà. Mais il reste encore aussi plein d'événements du festival Plume d'Afrique. Donc on vous invite bien sûr à aller vous renseigner sur les pages Facebook et autres du festival Plume d'Afrique, puisqu'ils sont très actifs sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Quant à cette émission, vous la retrouverez bien sûr en podcast sur notre site. Et voilà, on vous souhaite à tous une très bonne soirée, 19h. Vous retrouverez à bâton rompu de nos camarades de Radio Campus Orléans. Nous sommes mardi, donc il y aura également Jazz Story, ainsi que l'émission Août Rage, émission féministe. Bonne soirée à tous, à l'écoute de nos excellents programmes.